Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h57 et 20 secondes. Nous n'avons jamais pris l'antenne aussitôt. Nous sommes le 9 mai 2019. À mes côtés, celle qui parfume cette émission comme la lavande parfume la Provence. Comme le pain chaud parfume l'aube. Votre essence est sans égale. On vous sniffe comme du Tipex en cours de sciences et vie de la Terre. Comme du Tang dans les sanitaires du réfectoire. C'est si bon. Pardon, je m'égare. Céline Dacosta et Varoc, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Aujourd'hui, 9 mai, sachez-le, c'est la journée de l'Europe. Et qui mieux que nous ici incarnons la possibilité d'une belle entente entre les divers peuples européens, suisses, français, portugais. Dans l'équipe, on est toujours curieux de la culture de l'autre. Je dirais même qu'on se nourrit de cette curiosité. Tenez Céline, donnez-nous comme ça une petite info sur le Portugal.
Vous savez que je vais très souvent moi à la retraite. À la retraite, j'y vais souvent. La retraite, en portugais, c'est les toilettes. Je vous jure que c'est vrai. Je vous en prie, ça me fait plaisir.
Merci, merci Céline. Bonne journée de l'Europe. Un mot de la météo, passage.
Eh bien, un petit peu comme hier, hein, de la pluie qui va se décaler un petit peu vers l'est et puis du vent encore. Il y aura du soleil, mais vraiment sur une frange sud. Hein.
Vous me prévenez quand l'été arrive. Hein, parce que...
oui, bah, dimanche, ça devrait aller beaucoup mieux déjà.
Tant mieux. Nous avons par ailleurs des anniversaires à célébrer aujourd'hui. Elle souffle ses 51 bougies. C'est l'athlète française Marie-Josée Pérec. Et vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais depuis plusieurs mois maintenant, Eva Rock prétend l'avoir battu un jour à la course lors d'une compétition d'athlétisme. Cette prouesse aurait été réalisée, j'utilise bien le conditionnel, car ce n'est pas pour rien que ses amis niçois l'a surnommée la mytho du Negresco, lors d'une course de fond et non une course de rapidité, c'est vrai que c'était crédible. Eva, ayant pratiqué l'athlétisme à assez haut niveau, elle aurait pu, sur un 10 000 mètres, devancer une sprinteuse pas formatée pour ce genre d'épreuve longue distance. Une fois de plus, la mytho du Negresco s'est malheureusement trahie en voulant en rajouter.
À moi, en 10 minutes, c'est torché. Hein.
Le 10 000 mètres en 10 minutes, bien sûr, et sinon à Rio, dans le village olympique, il y avait une bonne ambiance.
C'est très festif, hein. Tout le monde est bourré. Hein.
Oui, on souhaite malgré tout un joyeux anniversaire à Marie-Josée Pérec. Enfin, il est né un 9 mai, il aurait eu 80 ans aujourd'hui, une véritable source d'inspiration pour nous autres baladins, amuseurs, le regretté profondément génial, Pierre Desproges.
Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Duras aussi, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries, hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou.
Et oui, chaque jour, je me fais cette réflexion pendant nos deux heures d'émission. Pierre, tu nous manques. La preuve par le son.
En même temps, monsieur Hoth, chez Mathieu Noël, c'est normal.
Merci Jérôme Lacroix. Eva, Céline, un hommage à des proches.
C'est la Saint-Philippe et ses offres exceptionnelles sur les cheminées et poils Philippe.
Ah, les poils Philippe.
C'est les cheminées.
Les poils de Philippe.
Ah, c'est les poils de Philippe.
Seigneur Dieu.
Mais j'adore cette vanne. Hein.
Ah oui, bah j'ai bien compris. J'ai bien compris quoi, Céline?
Liberté, égalité, poil au nez.
Bon, des proches, tu nous manques. Beaucoup, souvent, tout le temps. Bon, vous écoutez... L'émission qui vous asperge d'infos, vous souille de bonne humeur et vous démonte les zygomatiques. Un 5-7 d'actualité qui... Oui Eva, je vous sens toute chose.
Et non, ça m'a mis dans un état d'excitation terrible.
Vous êtes totalement tendu, ma parole.
Sauf qu'on m'a oublié, mais c'est pas grave.
Comment ça, je vous ai oublié?
La question du jour.
Quelle est la question du jour, Eva?
C'est les proches, justement.
Mais voilà une bonne question.
Mais oui, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout ou pas? Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui ce qu'il lui racontait avec humour à son époque?
La réponse est non.
Vous allez voir, les réponses sont très mitigées.
Ah oui, mais j'espère qu'il y a cette envie des gens, ça me fait plaisir. Mais je pense que malheureusement, le climat ne le permet plus. Merci à tous, debout les copains, c'est parti.
Merci de nous avoir choisis en ce jeudi 9 mai. Et très bon réveil, il est 5h01. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce jeudi 9 mai, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Prendre à bras le corps la transition écologique, credo choisi par la liste de la majorité pour les élections européennes. Programme de La République En Marche dévoilé hier. Virage vert des macronistes décrypté dès le début du journal. Les fonctionnaires appelés à la grève aujourd'hui. Protestation contre le projet de loi de réforme de la fonction publique. Perturbation à prévoir dans les transports et les écoles. Et puis encore une soirée de dingue en Ligue des champions de football. Les londoniens de Tottenham rejoignent Liverpool en finale, après une victoire 3-2 à l'Ajax Amsterdam.
Europe 1.
Mais non.
Eh ben si. On en parlera dans le JDS, dans le journal des sports après. Un grand coup de verre sur l'Europe. Le programme des macronistes pour le scrutin européen du 26 mai place la transition écologique à la une. 79 mesures au total dévoilées hier, parmi lesquelles la fin des centrales aux énergies fossiles en 2050, l'arrêt de la vente des véhicules thermiques d'ici 2040, un budget de 1000 milliards dédié aux énergies et aux transports propres. Jean-Rémy Baudot, pourquoi La République En Marche fait-elle ce pari écolo?
Il y a d'abord un constat. L'écologie, c'est la première préoccupation des Français et des Européens, explique un candidat de la liste Renaissance qui le reconnaît. Ça s'est comme imposé à nous. L'environnement, c'est le thème qui ressort des dizaines de milliers de formulaires récoltés dans toute l'Europe par La République En Marche. L'urgence est palpable, complète l'une des responsables du projet. Il y a ensuite un risque, celui de voir filer une partie des électeurs macronistes soucieux des questions environnementales vers la liste écologiste de Yannick Jadot. C'est la crainte de nombreux cadres LREM. L'un d'entre eux en convient, il y a des passerelles entre nos électorats. D'où la nécessité de mettre le paquet sur l'écologie. Promettre de faire de l'Europe une puissance verte, il n'y a pas de mauvaise raison d'en faire un premier objectif, glisse un candidat. Une stratégie de reconquête de l'opinion par l'écologie qu'on retrouve parallèlement à l'Élysée. Lundi soir, le président a fait une série d'annonces pour la biodiversité et pour se construire une image écolo. Emmanuel Macron est d'ailleurs allé puiser dans les propositions de la liste En Marche pour les Européennes.
Jean-Rémy Baudot, du nouveau dans les tarifs SNCF à partir d'aujourd'hui. Nouvelle carte réduction baptisée Avantage, déclinée en sous-catégories famille, senior, jeunes et week-end. Tout au même prix, 49 euros. À noter que les billets PREM, souvent en prix quand vous connaissez longtemps à l'avance la date de votre voyage, seront désormais échangeables et remboursables.
Europe 1, il est 5h03.
Plus d'une centaine de manifestations prévues dans toute la France. Les 5,5 millions de fonctionnaires sont appelés à la grève aujourd'hui. Appel à l'ensemble des syndicats. Il s'agit de s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique étudié par les députés à partir de lundi prochain. Perturbations attendues dans les transports, dans l'aérien, notamment Air France prévoit environ 30% de courts courriers annulés. Côté école primaire, le ministre Jean-Michel Blanquer tablé hier sur Europe 1 sur 15% de grévistes environ, un peu moins dans le secondaire. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place d'Enfer Rochereau, direction les Invalides. À Toulouse, le jeune homme qui a pris avant-hier 4 femmes en otage dans un bar PMU de Blagnac devrait être déféré aujourd'hui devant un juge en vue d'une probable mise en examen. Le ravisseur du petit Osnachi, 2 ans, est lui en détention provisoire et mis en examen. Europe 1 a recueilli le témoignage exclusif de la mère du garçonnet. Vous l'entendrez dans le journal de 5h30.
Asia Bibi a quitté hier le Pakistan.
Plus de 6 mois que cette chrétienne a été acquittée d'une condamnation pour blasphème dans son pays. Selon son avocat, elle a rejoint ses filles au Canada. Ce que confirme ce matin Europe 1 Anne-Isabelle Tollet, secrétaire générale du comité international Asia Bibi.
C'est un grand soulagement parce que elle peut enfin rejoindre les siens qui étaient déjà installés au Canada. C'est vrai qu'elle était particulièrement en danger puisque depuis qu'elle a été acquittée, elle était libre de ses mouvements, mais malgré tout, les fondamentalistes pakistanais continuent à exercer une pression et depuis qu'elle était cachée au Pakistan et protégée par le gouvernement pakistanais, chaque jour, ils faisaient du porte-à-porte pour essayer de retrouver Asia Bibi, faire justice eux-mêmes parce qu'ils considéraient que le gouvernement pakistanais avait tendu la main vers l'Occident, perçu comme étant l'ennemi de l'islam pour ces fameux islamistes pakistanais. Donc après avoir vécu 10 ans d'enfer, Asia Bibi va enfin pouvoir retrouver sa famille et vont pouvoir retrouver leur vie d'avant, même si elle sera complètement différente parce qu'il y a quand même ces menaces de mort qui planera toute leur vie au-dessus de leur tête et c'est pour ça qu'au Canada, ils seront quand même en sécurité. Et puis, c'est une victoire pour le Pakistan.
Des propos recueillis par Hélène Terzian. Loin d'être une affaire classée, comme le dit Donald Trump, l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe lors de la dernière élection présidentielle américaine revient sur le devant de la scène avec la convocation surprise au Congrès du fils aîné de Donald Trump dans le cadre de l'enquête. Première fois que le Congrès convoque un membre de la famille Trump. Par ailleurs, refus inédit de la Maison-Blanche de livrer au Congrès la version complète du rapport du procureur Mueller. Nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle, tonnent certains membres des démocrates. Et puis toujours aux États-Unis, Denver dans le Colorado devient la première ville de l'histoire du pays à dépénaliser l'usage des champignons hallucinogènes. Les électeurs ont dit oui à un référendum à 50,56%.
Visiblement une nouvelle qui intéressait Varrock.
En fait, ça prévoit une extrême tolérance des autorités sur cette question, mais techniquement, les champignons restent illégaux et leur vente constituera
notez-le
toujours
bien,
un crime.
Eva, c'est pas la peine de réserver vos prochaines vacances. Et on passe, mais très rapidement, au journal des sports. Avec une nouvelle soirée complètement dingue en foot.
The full time whistle.
It's glory, glory, Tottenham Hotspur. Il s'en étoufferait presque, ce commentateur anglais, au coup de sifflet final. Quelle performance des londoniens de Tottenham, qualifiés pour la première finale de Ligue des Champions de leur histoire à l'issue d'un scénario une nouvelle fois complètement dingue. Hier soir, après Liverpool-Barça avant-hier, victoire de Tottenham à l'Ajax Amsterdam en demi-finale retour. 3-2, alors que ces Anglais, ils étaient menés 2-0
mais
à
non,
la mi-temps
mais non.
Par les tant jeunes que talentueux néerlandais. Incroyable, hein, le grand bonhomme ce matin se nomme Louis Lucas Moura, brésilien, 26 ans, auteur des trois buts londoniens. Lucas, ex-joueur du PSG pendant 5 ans, parti en janvier 2018. Il a marqué le troisième et dernier but à la 6e minute des arrêts de jeu. Autre grand bonhomme, Hugo Lloris, le gardien français et capitaine de Tottenham, auteur de plusieurs arrêts décisifs.
Tout le mérite revient à Lucas, parce qu'il a marqué l'histoire du club avec ce triplé. Il mérite parce qu'il a une mentalité juste incroyable et je trouve que c'est une belle revanche pour lui. Non,
Hugo Lloris avec Cyril de la Morinerie, et voilà qu'après le titre de champion du monde, Lloris, il va disputer une autre grande finale, celle de la Ligue des Champions. Rendez-vous le 1er juin à Madrid pour cette finale, donc Liverpool-Tottenham. Ce sera la deuxième finale de l'histoire de la compétition, 100% anglaise, 11 ans après Manchester United-Chelsea.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Deux bleus du tennis se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale du tournoi sur terre battue de Madrid. Jérémy Chardy et Gaël Monfils. Monfils qui retrouve aujourd'hui Federer pour une savoureuse affiche. Élimination en revanche de Lucas Pouille et Caroline Garcia. Notez le tranquille succès de Nadal face au jeune Canadien Auger Aliassim.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis Eva, Gandhi disait...
Un chat te juge, un chien te fait la fête.
Non, Eva, Gandhi disait, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Tous les matins, dans Fallait oser, Europe 1 donne la parole à ceux qui ont justement osé le changement. Ce matin, par exemple, rencontre avec Franck, ex-chargé d'affaires devenu gérant de camping. Mais avant cela, la météo du jour, Céline Dacosta. En attendant le retour du soleil, on met ses bottes en caoutchouc.
Oui, c'est vrai, c'était l'activité idéale hier entre deux averses, aller sauter dans les flaques et chercher des escargots.
J'y ai pas pensé.
Bah, vous et ramasser les grêlons aussi. Ouais.
Ah, vous en avez eu des grêlons?
Ah, bah, je vous montrerai la vidéo que j'ai prise chez moi hier, des grêlons, une averse de grêlons terrible sur Paris.
Voilà, mais ça n'a pas été le cas dans mon secteur. Et vous ne me demandez pas, mais on n'en a pas trouvé d'escargots. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, rebelote, les averses vont s'enchaîner. Elles sont déjà bien présentes ce matin sur une grande partie du pays et vont s'intensifier dans la matinée sur le nord-est avec un vent soutenu. Cet après-midi, on aura même sur ce secteur un risque orageux. Vous avez eu des orages quand même. Moi, j'ai eu des orages.
Oui, il y a eu des orages aussi.
Encore des averses pour les autres avec le retour de quelques éclaircies plus franches sur le nord-ouest. Là où on va rester au sec, entre le sud de l'Aquitaine, la région PACA et la Corse, avec là aussi un vent bien sensible, entre 60 et 80 km à l'heure. Les températures, elles sont semblables à celles d'hier, avec une moyenne cet après-midi de 14 à 23 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva Rock.
Donc, on parlait
de Pierre Desproges.
De Pierre Desproges.
Donc, c'est l'anniversaire
aujourd'hui. Exactement. Alors, pourrait-on encore dire aujourd'hui ce qu'il racontait lui avec humour à son époque? Peut-on rire de tout? Est-ce qu'il vous manque aussi? Il y en a un à qui il manque beaucoup, c'est Jean-Philippe Ballas, parce que Pierre Desproges est
Jean-Philippe
décédé.
Jean-Philippe Ballas, qui est un des piliers de la rédaction.
De la rédaction, pardon, vous avez raison, et qui dirige notamment la rédaction du Matin. Desproges est décédé le 18 avril 1988. C'était le jour des 18 ans de Jean-Philippe Ballas, et c'était son idole absolue. Hein. Et il s'en souvient très très bien. Il est venu nous en parler ce matin dans la rédaction. Vous êtes très nombreux à nous citer une fameuse phrase de Pierre Desproges qui aurait dit « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Et alors, je suis allée vérifier. En fait, il n'a jamais dit cette phrase.
C'est un mythe.
C'est un mythe. Et il n'a pas dit ça comme ça. C'était lors d'une émission du tribunal des flagrants délires. Il n'a pas exactement dit ça. En revanche, il a dit un truc qui s'y rapproche. Il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Ce qui revient à peu près au même et qui est une phrase fabuleuse. Voilà, vous continuez à réagir. Vous êtes très nombreux ce matin.
Merci beaucoup.
Sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui vous amuse, vous informe et même vous stimule.
Oh putain, ouais.
Mais pas comme ça, Eva. Non. Non, nous disons. Oh, c'est qui vous donne matière à réflexion. Voilà. Chaque matin, dans Fallait oser, on se remet tous en question à l'écoute de parcours de ceux qui ont eu le courage un jour de changer de vie. Ce matin, Franck Landais, il a 48 ans, il vit à Plumelieu-Bieuzy, vous mettez des pièges, c'est près de Pontivy, dans le Morbihan, en Bretagne. Franck a été longtemps chargé d'affaires dans le génie climatique, pendant 29 ans exactement. Il y a un an, il a décidé de devenir gérant de camping avec son épouse.
Fallait oser.
Je m'étais toujours dit, tout au moins c'était dit avec mon épouse, que quand on commencera à s'ennuyer dans notre métier, on envisagerait de faire autre chose. Je suis arrivé au bout d'un cycle, et donc pour le coup, mon épouse de son côté aussi, elle est au bout du cycle. Donc on a décidé de changer. On était camping-cariste, nous, à l'origine. Et donc, depuis toute mon enfance, j'ai passé en camping. Quand on s'en est parlé avec mon épouse, on a dit « Pourquoi pas le camping ?» Et c'est venu comme une évidence en quelques minutes.
Trouver l'emplacement et faire les travaux tout l'hiver, c'est ce qui a été le plus compliqué pour Franck et son épouse. Il ne fallait pas se tromper d'endroit, car pas de deuxième chance. Ils ont mis toutes leurs économies dans le projet.
Et ils ont déménagé de la Sarthe à la Bretagne pour trouver le camping de leur rêve. Le Clos du Blavet est ouvert depuis le 1er avril. C'est donc leur première saison. Ce ne sont pas des vacances pour autant, et c'est un très gros défi pour Franck et son épouse.
C'est un nouveau challenge, c'est toujours ce que j'ai pu me motiver dans ma carrière, c'est d'avoir quelque chose à apprendre. Donc, non, là, c'est vraiment, on apprend, et puis je fais tout. Donc, c'est très diversifié, le métier de propriétaire de camping. On se sent comme étant au tout début, donc il y a forcément du rodage, il y a des imperfections. Mais globalement, les premiers retours qu'on a de nos clients, ils sont très satisfaits du cadre et du travail qu'on a pu fournir tout l'hiver. Les gens, quand ils viennent nous voir et qu'ils me disent « Votre camping est super, on a passé un très très bon moment », voilà, je vais dire, c'est très valorisant.
Le camping compte 83 emplacements avec également une salle de réception, mais Franck a déjà des projets d'aménagement. Il aimerait adapter le clos du Blavet aux personnes à mobilité réduite. Ce sera pour l'an prochain.
Et puis on vous rappelle que les changements de vie, c'est certes tous les jours dans Debout les copains avec cette chronique Fallait oser, mais c'est aussi à écouter en format plus long quand vous le voulez grâce au podcast L'Envol. C'est produit par Europe 1 toutes les semaines et vous pouvez le télécharger gratuitement via notre site ou la plateforme iTunes.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous sort du lit avec délicatesse mais énergie. S'il faut vous balancer un seau d'eau glacée à la figure, on le fera, mais toujours gaiement.
Kissou, kissou.
À suivre, j'ai plus de batterie. Combien de fois par jour répétez-vous cette phrase? Comment trouver une solution à ce fléau? Eh bien, grâce à Jeudi les bons tuyaux, votre séquence culture et multimédia. Clément Le Saff, notre expert high-tech, vous expliquera comment augmenter l'autonomie de votre iPhone. Et puis... comme dirait Godefroy de Montmirail...
J'ai vu une grosse bête.
Ouais, attention, les moustiques tigres gagnent du terrain en France. Comment éviter de se faire piquer? Le docteur Ichou nous dit tout. Avant cela, un intermède musical des plus délicieux. Voici Zaz. Demain, c'est toi sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Prendre à bras-le-corps la transition écologique, credo choisi par la liste de la majorité pour les élections européennes. Le programme de La République En Marche a été dévoilé hier. Il propose notamment la fin des centrales aux énergies fossiles en 2050, l'arrêt de la vente des véhicules thermiques d'ici 2040. Un budget de 1000 milliards est dédié aux énergies et aux transports propres. Du nouveau dans les tarifs SNCF à partir d'aujourd'hui, nouvelle carte réduction baptisée Avantage, déclinée en sous-catégories famille, seniors, jeunes et week-end. Tout au même prix, 49 euros. À noter que les billets prêmes souvent pris quand vous connaissez longtemps à l'avance la date de votre voyage, seront désormais échangeables et remboursables. Enfin, encore une soirée invraisemblable en Ligue des champions de football. Les Londoniens de Tottenham rejoignent Liverpool en finale après une victoire 3-2 à l'Ajax Amsterdam. Les Anglais ont inscrit 3 buts en seconde période dont le dernier à la 6e minute des arrêts de jeu.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 9 mai 2019 et tout de suite on file à Maison Lafitte retrouver notre expert hippique, notre Thierry préféré, Céline.
Momotus.
Pape et Caro, léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Maison Lafitte et mon pari gagnant sera le 104 Fira. Dans une condition physique ascendante, cette jument, longtemps ménagée, arrive désormais à maturité et aura l'avantage de courir à domicile, puisqu'elle s'entraîne chaque matin sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Préparée avec soin pour cet objectif et avantagée par l'assouplissement des pistes, nul doute qu'elle devrait pouvoir justifier l'estime et la patience dont a fait preuve en toutes circonstances son entraîneur Sylvain Dehaize. Alors notez bien, pour cet après-midi à Maison Lafitte, réunion 1 dans la première course, le numéro 4, Fira.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et comme chaque matin à 7h06, c'est la séquence du pressing qui arrive, qui vous permet de connaître un peu mieux notre tumultueuse colocation. Et aujourd'hui, je l'annonce, c'est le grand retour de notre bon vieux Dan Chibro.
Ah.
L'amant mexicain d'Eva en pointillé, puisqu'il se sépare toutes les deux semaines pour se retrouver à chaque fois qu'Eva le recontacte par SMS, ivre en carence d'affection et de rapprochement de peau. Ça a été le cas hier. Elle lui a envoyé « Tu dors ?» emoji aubergine, emoji chapeau de fête, emoji aubergine. Il lui a répondu « Despacito, quiero respirar tu cuello, mi amor ». Puis l'affaire était dans le sac. Ils se sont rejoints sur le parking de Castorama. Et c'est à ce moment-là, une fois l'ivresse redescendue, qu'Eva a pris conscience qu'il n'avait de toute évidence plus rien à se dire. Tenta péniblement de combler les blancs de façon quelque peu stérile.
Ça fait vachement de bruit les doudous, en fait.
Le charme était rompu. Tout le concernant irritait Eva. Son accent mexicain, son français bancal, qu'elle trouvait autrefois charmant, l'insupportait désormais au plus haut point. Pourtant, Don Chibro se débattait, tentait tant bien que mal de s'exprimer correctement. Je veux chatos, répétait-il en désignant sa bouche.
Apparemment, il n'arrive pas à dire le mot chat, mais moi, j'y arrive très bien.
Mais non, chatos, ça veut dire plat en espagnol. Il avait faim, il vous propose d'aller manger un morceau. Eva, calmez-vous. Enfin, Eva, j'ai compris ce qui clochait. Eva a compris ce qui clochait. Elle s'approcha de Don Chibro, souleva son sombrero, arracha sa moustache postiche et découvrit le poteau rose. Don Chibro était en fait Laurent Cabrol.
Cabrolito.
Eva partit en courant pendant que sur le parking du Casto, Cabrol cramait sa dernière cartouche séduction.
Mexico, Mexico.
Monaco.
Une scène déchirante, difficilement soutenable. Passons plutôt au pressing. Notre revue de presse en mode zapping.
Vos quotidiens. Cabrol.
Oui, on l'embrasse, Cabrolito. Vos quotidiens, faites la journée de l'Europe aujourd'hui. Les éco-titres climat, l'Europe en progrès sur les émissions de CO2. Europe et environnement également, la une de Libération. Macron, la carte verte. Le Figaro affirme l'oiseau veut relancer sa campagne. Et puis, il y a la une de Midi Libre qui devrait vous ravir ou pas. Faut-il craindre nos araignées avec une photo impressionnante d'un prédateur invertébré qui n'a pas l'air très sympathique. Eva, qu'avez-vous trouvé
dans la presse ? Pas sympathique du tout, ouais, je l'ai vu. Alors moi, c'est dans les pages idées que j'ai repéré l'article du jour. C'est une tribune qui est signée Olivier Loub. Il est historien de l'imaginaire politique. Il est surtout auteur d'un livre au titre évocateur, vous allez comprendre. Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. Vous savez que la première édition du festival de Cannes date de septembre 1946, mais l'événement en fait avait été programmé pour septembre 1939 et le projet a été stoppé par l'arrivée de la guerre. L'occasion pour l'historien de revenir sur la genèse du festival de Cannes. En fait, tout a commencé à Venise. Depuis 1932, le cinéma a obtenu une reconnaissance internationale en tant qu'art avec la création du festival de la Mostra. Et il écrit « Cannes est né à Venise, ou plus exactement de Venise, mieux encore contre Venise ». En fait, en 1937, le succès rencontré par La Grande Illusion, le film de Jean Renoir au festival de la Mostra, pousse Goebbels à contrôler le palmarès l'année suivante. Résultats sont donc récompensés en 1938 un film fasciste et un film nazi. En conséquence de quoi, les délégués britanniques et américains décident de démissionner et à ce moment-là, ils envisagent de créer effectivement un contre-festival en France. Jean Zay, qui est alors ministre antifasciste de l'éducation et des beaux-arts, lui y est favorable. Daladier donne son autorisation. Hollywood va rendre possible la chose artistiquement et industriellement. Et Cannes est donc né du couple franco-américain et Cannes s'impose surtout comme le festival des nations libres face au cinéma totalitaire. Et ce passé, en fait, permet de comprendre comment le festival est devenu un lieu historique de tensions ambivalentes contemporaines, écrit le spécialiste. C'est-à-dire que Cannes est à la fois l'incarnation du rêve glamour, mais il est totalement pris dans le pragmatisme politique de la diplomatie internationale. Par exemple, au début, les films étaient choisis par les États-nations et ont fait venir les soviétiques alors que les films sont interdits de diffusion commerciale en France. En fait, Cannes est historique parce qu'il s'agit de l'entrée du cinéma dans l'histoire, non pas comme art, mais comme objet d'histoire culturelle du politique, conclut Olivier Loub, qui signe avec Julien Ougergouz un documentaire sur ce sujet qui sera diffusé d'ailleurs dimanche sur France 5 à 22h40. Et c'est passionnant, cette histoire-là.
Écoutez, Eva, voilà une chronique, si on peut dire, qui rejoint Libération. Le top 3 de vos meilleurs papiers dans cette émission à réécouter en podcast. Céline Dacosta.
Non, bah moi aussi, vous allez voir.
Ah bah. Un peu plus de.
On est sur la page Science du Figaro. Ça, déjà, ça vous est
science,
pas
passé. C'est magnifique.
Voilà.
Déjà, oui,
consacré à la prise de poids. Avec cette question, peut-on sauter le petit déjeuner pour maigrir ?
J'ai eu peur, oui. Ouais. Peut-on sauter le petit déjeuner ? Oui, d'accord.
Ça fait peur.
Oui, j'ai eu peur avec vous.
Jamais. Une question qui agite les chercheurs en nutrition depuis des années. On nous rabâche sans arrêt que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée.
Tout à fait.
Alors, dites-moi tout.
Et le scientifique qui dirait le contraire ? Eh bien, je lui donnerai vous sur le parking du Castorama. Parce que moi, je crois très très fort au petit déjeuner.
Ah, d'accord. Non. Donc écoutez bien. Alors oui, pour des enfants en pleine croissance, il est même indispensable ce petit déjeuner. Mais pour eux, comme pour nous, la sensation de faim n'est pas souvent rendez-vous. On réveille et c'est normal. Vous n'avez pas faim quand vous réveillez.
Mais si.
Si, si. Vous
moi, j'ai peur de ma mort, je me réveille dans la nuit pour aller choper un truc dans le frigo.
Alors, on nous explique que la nuit, le corps se met normalement en veille avec une consommation réduite de calories, surtout que notre foie se charge de libérer le glucose nécessaire aux fonctions cellulaires de base. Ça, c'est la version scientifique. Nous sommes donc nombreux, adultes ou adolescents, à sauter l'étape du petit déjeuner, parce que pas fait en se réveillant, à part vous et vous, en nous contentant d'un café ou d'un thé. Mais est-ce que cela fait maigrir ou grossir ? C'est la question. Et bien, les chercheurs australiens ont tenté de répondre à cette question en janvier dernier. Ils ont tiré deux conclusions de leurs études. Vous allez voir, ça fait drôlement avancer le schmilblick. Il n'y a pas de preuve que prendre un petit déjeuner aide à perdre du poids, ni que le sauter fait grossir. Et que même les données les plus solides sur le sujet ne le sont pas tellement.
Vous avez beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais est-ce que vous avez des chercheurs qui trouvent
ces données ? Ben non, vous voyez, finalement. Alors, sauter le petit déjeuner, est-ce que ça a des conséquences ? Est-ce que du coup, on consomme plus de calories le reste de la journée ? Alors, probablement, disent les chercheurs qui ne se mouillent toujours pas. Dans une autre étude, ils se sont aperçus que sauter le petit déjeuner faisait en moyenne prendre 1 kg aux obèses et perdre environ 400 grammes au sujet déjà maigre. Pour les autres, aucune différence. Une chose est sûre, en revanche, on sait que l'organisme dépense moins d'énergie dans la matinée si on reste à jeun. Finalement, prendre un petit déjeuner serait juste une question de goût et de santé. Comme dirait Marcel Ichoux, ça ne sert à rien. En attendant, il faut lutter pour faire prendre un petit déjeuner à nos enfants parce que, je vous le rappelle, en ont besoin. C'est vrai que c'est compliqué de les faire prendre un petit déjeuner avant de partir à l'école. C'est à lire dans le Figaro du jour. Et la petite astuce, c'est de mettre un petit goûter dans le sac.
Oh, la petite astuce de maman, c'est tellement
bien sûr.
Ou alors faire des méga petits déjeuners super classe, hyper beaux, esthétiquement, etc. Je le sens,
à 7h30, ils n'ont pas faim.
Ah bon ?
Ils n'ont pas faim, c'est compliqué.
C'est quoi ces enfants ?
Mauvais
rêve. C'est parce que nous, à 7h30, on en rêve de ça. C'est pour ça que vous dites ça.
Arrêtons de parler de bouffe pour une fois. Jérôme Lacroix.
C'est l'histoire qui fait du bruit dans Landerneau, comme dit l'expression. Bah oui, ça se passe dans le Finistère. Je vous emmène à la pointe du Corbeau, sur la presqu'île de Plougastel. Alors, pour trouver ce que je cherche, il faut longer la côte. Vous savez, ce petit chemin à travers Ilienne-Arguen, le petit hameau, à traverser la lande sauvage, grimper sur les rochers. Mmh. Et oui, on peut accéder à ce mystère que si le coefficient de marée est inférieur à 70. Marée basse, ça y est, on le découvre au bout de la pointe du carreau, ce rocher entre la mer qui s'avance et la falaise, la façade de ce rocher, qui est l'objet de toutes les excitations en ce moment dans ce coin de la Bretagne, parce que figure dessus, eh ben, c'est de mystérieuses inscriptions. Alors, voici...
Eva Donchibro Forever.
Voici notamment... Voici notamment ce qu'on peut voir. Je vous en ai imprimé une partie en gros.
Mais il y a mon nom.
Alors, allez-y.
Rock, rock, ça commence par rock.
Rock, art.
Ah oui, dis donc.
Alors, dre, art, griot. Bon,
oui. Ça ne veut rien dire.
Sur, voilà, ça ne veut rien dire.
Obi pour Obi-Wan.
On peut lire sur une vingtaine de lignes. Ça, c'est juste un extrait. Des lettres à l'envers, des N, des B à l'envers.
Il y a écrit froid, il fait froid.
Il y a des hauts barrés aussi, comme dans les langues nordiques. Alors, en fait, cette langue, on ne la connaît pas. Ou alors, elle est codée. Alors, on estime ces écrits vieux d'environ 300 ans. Du basque, du vieux breton, des pistes lancées par des vieux du village. Mais en fait, on n'en sait rien pour l'heure. Des historiens locaux pensent que c'est peut-être l'œuvre d'un artisan du XVIIIe siècle.
Il faut envoyer Fabrice d'Almeida.
Ah bah, par exemple, attendez, il y a une carotte. Il y a aussi deux dates, 1786-1787, qui correspondent à une période où un fort non loin de là était en travaux. Bon, on trouve aussi un cœur et une croix au-dessus de ces dates, qui peuvent rappeler des sigles vendéens ou bretons. Certains pensent alors au Chouan. Bon, depuis plusieurs jours, ce rocher, il est assailli parce que pour tenter de percer le mystère, la mairie de Plougastel a lancé un appel et un concours avec récompense, 2000 euros à celui qui déchiffrera le texte. C'est ainsi que des champollions éclairés se pointent à la pointe au pied de ce rocher, déjà surnommé la pierre de Rosette. La mairie a reçu plus de 1000 mails en 3 jours de toute la France et même d'Angleterre et de Belgique, parce que beaucoup de gens veulent en savoir plus, avoir une photo avant de se rendre sur place. Et si vous voulez tenter votre chance et peut-être gagner les 2000 euros, j'ai l'impression de
comment vous voulez que
peut-être Denis Brognard qui pose la question.
Comment voulez-vous que je tente ma chance? J'ai aucune idée.
Et ben, il faut écrire à Véronique Martin à la mairie, véronique.martin@mairie-plougastel.fr.
Il faut des compétences énormes pour réussir à déchiffrer cette langue. Si
mais
c'est
envoyez-leur
une
les scénaristes de Game of Thrones, à mon avis, ils vont vous déceler ça en 2 secondes, vous allez comprendre.
Ah, peut-être, ça c'est peut-être quelqu'un qui a fait une farce.
C'est estimé, il y a plus de 300 ans.
Ah, on est sûr, c'est daté. Bah, c'est daté au carbone 14.
C'est estimé, estimé. Non, estimé.
Merci beaucoup, Jérôme. Le pressing de ce jeudi 9 mai referme ses portes. Eva, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec Laurent Cabrol?
Un mariage devant Elvis Presley.
Ah, oui, d'accord. Mais on sera là, on sera là.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Exaltant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur le temps de ce 9 mai, une journée encore pluvieuse, Céline Dacosta.
Oui, et on n'en a pas fini avec les averses. Ça sera le cas encore entre vendredi et samedi, avec une vraie accalmie à partir de dimanche et le retour du soleil partout. Ce matin, donc, la pluie est encore bien présente. Du Poitou-Charentes à la région centre en ce moment, jusqu'en Normandie, Île-de-France, et puis en allant vers le Grand Est. Ailleurs, on n'est pas à l'abri là non plus d'une averse. Là où c'est plus sec, avec déjà ce matin quelques éclaircies de prévues, c'est entre le sud de l'Aquitaine et la région PACA, côté température. La moyenne va en ce moment de 6 degrés à Millau, en passant par 9 à Strasbourg, 10 à Brest et Paris, 12 à Toulouse, 14 degrés à Bordeaux et déjà 16 à Ajaccio.
Et cet après-midi, encore de la pluie?
Ben oui, toujours, hein, surtout le nord-est avec un risque orageux, de la Gironde à la région Rhône-Alpes également, avec un vent déjà présent ce matin qui va se renforcer cet après-midi, 70 à 80 km à l'heure dans les terres. Les éclaircies vont revenir sur le nord-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, avec encore un risque d'averse tout de même. Et puis ça restera sec entre les Landes et les Alpes-Maritimes, avec là encore du soleil, même s'il va progressivement se voiler dans le sud-ouest. Les températures, elles sont semblables à celles d'hier. 15 degrés à Cherbourg, 16 à Mulhouse, à Bordeaux, 17 à Paris, 18 à Biarritz cet après-midi, 20 à Ajaccio et jusqu'à 23 à Perpignan.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos, de reportages et de surprises, comme ce matin quand Eva s'est retournée dans le lit et s'est exclamée
« Oh, tu es là, Laurent Cabrol !»
Ah bah oui. À suivre, jeudi, les bons tuyaux, le rendez-vous des amateurs de culture et de high-tech. Ce matin, on vous dira notamment comment augmenter la batterie de vos smartphones. Et puis votre rendez-vous santé, la menace est parmi nous. Le moustique tigre est désormais présent sur l'ensemble du territoire français. Quel risque? Comment s'en prémunir? Le docteur Ichou nous dit tout de ce moustique qui pourrait bien devenir le cauchemar de notre été.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 9 mai. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Hélène.
Grève et manifestation dans toute la France. Les fonctionnaires sont vent debout contre le projet de loi qui doit moderniser leur statut. Ils refusent d'être alignés sur les règles du privé. L'alerte enlèvement avait permis de retrouver sain et sauf le petit Osnachi, 2 ans. Nathalie Chevant, c'est la seule à avoir pu rencontrer la maman qui vient d'arriver du Nigeria. Et puis le foot, encore un exploit en Ligue des Champions, celui de Tottenham qui bat l'Ajax Amsterdam 3-2 et rejoint un autre club anglais, Liverpool, en finale. On va y revenir évidemment dans le journal des sports.
Europe 1.
5,5 millions d'agents appelés à manifester contre le projet de loi sur la fonction publique qui arrive lundi en première lecture à l'Assemblée. Près de 150 défilés prévus dans toute la France. À Paris, ce sera cet après-midi entre Denfert Rochereau et les Invalides. Tous les syndicats de fonctionnaires s'élèvent contre le texte qui, pour faire simple, prévoit d'appliquer les recettes du privé à la fonction publique. Anne-Laure Jumet.
Avec ce texte, le gouvernement se dote d'une boîte à outils pour réduire la masse salariale et favoriser la mobilité. Quand un service public sera restructuré, il y aura ainsi des plans de départ volontaires permettant aux agents d'être reclassés dans une autre administration ou de poursuivre leur carrière dans le privé. Le projet de loi crée aussi un dispositif de rupture conventionnelle pour quitter la fonction publique avec un chèque et des allocations chômage. Et puis, le recours aux contractuels pour des emplois permanents et notamment pour des postes de direction est facilité. Une situation dénoncée par Mylène Jacot de la CFDT Fonction publique.
Qu'on puisse avoir besoin de contractuels, nous, on n'a pas de sujet avec ça. En revanche, on est contre la précarité, contre la multiplication des CDD, des contrats courts. Et on est contre la substitution de l'emploi contractuel à l'emploi statutaire. Et on dit au gouvernement... Entendez ça.
Mais certaines recettes du privé sont davantage consensuelles. C'est le cas de cette disposition ajoutée in extremis. Les CDD de moins d'un an seront ainsi assortis d'une prime de précarité de 10% versée à la fin du contrat de travail.
Alors Jumet, et hier sur Europe 1, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer tablait sur un taux de grévistes d'environ 15% dans le primaire et moins dans le secondaire. Les Restos du Cœur réclament un plan européen de lutte contre la pauvreté à l'occasion de la journée de l'Europe. L'association s'inquiète d'une possible baisse des fonds consacrés à l'aide alimentaire, ce qui aurait un effet catastrophique pour les plus démunis.
Des médecins disent non au fichage des gilets jaunes dans les hôpitaux.
Oui, ils sont une centaine à signer une tribune dans l'Express pour réclamer, je cite, l'arrêt immédiat du fichage des personnes blessées, notamment lors des manifestations de gilets jaunes. Ils affirment que depuis le début du mouvement, il y a 5 mois, le fichier CIVIC, système d'information pour le suivi des victimes, mis en place après les attentats de 2015, est détourné par l'administration hospitalière, notamment en région parisienne.
Europe 1, il est 5h32.
Le ravisseur du petit garçon de 2 ans à Marseille est en détention provisoire.
Oui, ce trentenaire sans revenu et sans profession, vivant chez ses parents, n'a pas pu expliquer pourquoi il avait enlevé l'enfant dimanche dernier. Le petit Osnachi n'a pas subi de violence. Sa famille, venue du Nigeria, vit dans un squat à Marseille depuis 3 semaines en espérant que sa demande d'asile sera acceptée. Nathalie Chevance a pu rencontrer la maman en exclusivité pour Europe 1.
Le petit Osnachi a retrouvé son grand sourire et ses copains du squat Saint-Just, là où il habite avec ses parents depuis 3 semaines. Incroyable destin que celui de cette famille qui a fui le Nigeria et son insécurité pour se retrouver dans un commissariat marseillais parce que leur fils de 2 ans venait de se faire kidnapper par un marginal. La maman d'Osnachi a encore du mal à réaliser.
Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne sais pas pourquoi il a pris mon enfant. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu et les gens de ce pays qui m'ont aidée à retrouver mon enfant. Nous venons d'arriver en France, on ne connaît personne. Je remercie aussi le travail de la police et toutes les personnes qui m'ont permis de retrouver mon enfant.
Une famille pleine de reconnaissance mais qui risque de se retrouver à la rue, le squat Saint-Just étant sous le coup d'une mesure d'expulsion. La maman d'Osnachi espère la clémence des autorités vis-à-vis du collectif.
Nous serions tellement heureux de rester ici car on m'a beaucoup aidée. Je serais ravie qu'on m'autorise à rester. Je veux vivre en France, avoir un travail, des papiers. Nous serions vraiment heureux.
Les parents d'Osnatchi ainsi qu'une centaine de migrants se rassembleront cet après-midi devant le tribunal d'instance. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis l'adolescent de 17 ans qui a pris 4 femmes en otage à Blagnac près de Toulouse a passé une nouvelle nuit en garde à vue, se revendiquant d'une milice des Gilets jaunes. Il devrait être mis en examen dans la journée. Le commerce équitable a le vent en poupe, plus 22% l'an dernier. Les ventes ont décollé avec un chiffre d'affaires global de près d'1,3 milliard d'euros. Ces produits labellisés garantissent un revenu décent aux agriculteurs.
À moins de 3 semaines des élections européennes, les dirigeants de l'Union se retrouvent pour un sommet sans le Royaume-Uni à Sibiu, en Roumanie.
Oui, ils doivent plancher sur leur agenda stratégique des 5 prochaines années et ils se sont mis d'accord pour ne pas parler du Brexit, dont la date butoir a été repoussée au 31 octobre. Et puis dans un instant, on va parler dans le journal des sports de cette nouvelle rencontre magique en Ligue des Champions. Tottenham qui s'est qualifié pour la finale face à l'Ajax d'Amsterdam. Un joueur de deuxième division néerlandaise vient de se faire licencier avec effet immédiat. Il avait séché un entraînement de son club en faisant croire qu'il était malade pour voir jouer l'Ajax Amsterdam au match aller. Pas de chance sur les images télé, on l'a vu dans les tribunes.
Aïe, 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 la boulette. La boulette, comme on dit. Merci, c'était le journal d'Hélène Zeleny. Hélène, c'est le moment que vous adorez, puisque je sais que vous êtes fan de lui.
Une petite chose absolument irrésistible.
Oui, Hélène, dans Le Seigneur des Anneaux, vous aviez une faiblesse pour les hobbits, ces êtres petits mais malicieux. Voici celui qu'Eva surnomme...
Le petit poupon.
Personne dit que je suis mignon.
Vas-y, tout le monde le dit, justement. Voici Jérôme Lacroix pour le journal des sports.
Elle est trop gentille, Eva.
À la une, Jérôme, l'Angleterre a le sourire. Et un peu la France aussi.
Joli cadeau de naissance pour Archie, le Royal Baby. Deux clubs anglais s'affronteront le 1er juin à Madrid en finale de la Ligue des champions de football, Liverpool et donc Tottenham. Et ils auront en commun d'avoir en demi-finale retour ébouriffer l'Europe du foot avec deux scénarios complètement dingues avant-hier. On vous en a parlé, Liverpool renversé Barcelone. Et hier soir, les Londoniens de Tottenham ont terrassé aux Pays-Bas les jeunes talents de l'Ajax Amsterdam. Victoire 3-2 en demi-finale retour. Fantastique remontée en seconde période parce que les Néerlandais menaient 2-0 à la mi-temps. Glory ce matin pour l'ancien joueur du PSG, Lucas Moura, auteur des 3 buts de Tottenham, dont le dernier est décisif à la 6e minute des arrêts de jeu. Première finale de Ligue des Champions pour Tottenham, pour Hugo Lloris, son gardien capitaine, ainsi que pour Moussa Sissoko, autre Français de l'effectif londonien.
On savait qu'on pouvait le faire. Voilà, on est venu avec beaucoup d'ambition sur ce match retour. Mais à la mi-temps, voilà, le coach a eu le bon discours. Puis même entre nous, on s'est dit qu'il voilà, fallait lâcher les chevaux, qu'on n'avait plus rien à perdre. 2-0, que tu perdes 4-0, donc ça n'allait rien changer. Donc il fallait jouer notre coup à fond. Mais voilà, avec la détermination et toute l'envie qu'on y a mis, ben, on réussit à mettre ce but dans les dernières secondes et voilà, c'était une délivrance pour nous, donc nous sommes très contents.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. On connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Ligue Europa, Chelsea, Francfort et Valence Arsenal, les demi-finales retour ce soir 21h.
Le foot féminin, Jérôme, et les Bleus sont au charbon.
Beaucoup de travail physique au menu du début du stage de préparation à la Coupe du Monde en France. La plupart des Bleus réunis depuis hier à Perros-Guirec à moins d'un mois du match d'ouverture le 7 juin. Ce matin, 10h, premier entraînement ouvert au public, mais la sélectionneuse Corinne Diacre a prévenu parfois, ce sera huis clos, ni public, ni médias, et pour cause.
Vous savez, on ferme pas pour embêter les gens, on ferme tout simplement parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être entre nous pour travailler. On est obligé de se mettre à l'abri, mais pas de vous, c'est surtout de nos adversaires. On peut pas, nous on n'a pas d'infos de leur part, donc je vois pas pourquoi nous on leur en donnerait.
Un effectif privé pour l'instant de toutes les joueuses de Lyon. Elles disputent samedi de la semaine prochaine la finale de la Ligue des Champions. Et hier soir, elles ont remporté la Coupe de France féminine 3-1 face à Lille.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Et si c'était Gaël Monfils, je lui portais encore malheur avec mon pronostic. Le bleu du tennis affronte aujourd'hui Roger Federer pour une place en quart de finale du tournoi de Madrid. Affrontement savoureux parce que Federer est en quête de repères sur terre battue et que Monfils est en forme.
Et avec un peu de chance, Gaël dort encore. Il n'aura pas entendu le chat noir. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. GG, un dernier mot qui n'existe pas.
Katoto.
Merci, GG.
Il est 5h36, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, en compagnie des sœurs sourires de l'info, Eva Rock et Céline Dacosta. À suivre. Oui, votre point santé, les filles. Je précise à toute fin utile que le sujet proposé en conférence de rédaction par Mathieu Charrier, le chef adjoint du service culture, n'a pas été retenu.
Redécouvrir sa sexualité grâce au kung-fu.
Non, finalement, non. Ce matin, le docteur Ichou vous enduit d'anti-moustiques car il est là, bien décidé à nous pourrir l'été. Le moustique tigre arrive. Comment l'éviter ? On vous dit tout.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Oui, et croyez-le ou non Céline, c'est l'heure de faire un point sur la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Un temps toujours clément, faut le dire vite Rénoval. Encore de la pluie et du vent aujourd'hui, oui.
Ouais, mais il y a toujours cet abri. Hein.
C'est vrai, on est bien sous les abris
Rénoval. Ils sont malins, Rénoval. Et ça quasiment partout, hein, cette pluie et ce vent. Dès ce matin, les averses les plus soutenues vont se décaler vers le nord-est avec un risque orageux dans l'après-midi. Et là où on va éviter le parapluie, c'est sur une frange extrême sud, hein, des Landes jusqu'aux Alpes-Maritimes et en Corse, avec là aussi un vent bien présent. Il soufflera d'ailleurs un petit peu partout avec des rafales entre 60 et 60 km/h. On a d'ailleurs cette nuit battu des records, hein, notamment en Bretagne avec des records de vent. Et il a fait jusqu'à 139 km/h à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan. Ça va se calmer quand même aujourd'hui, ce qui fait que le ressenti côté température sera un peu plus frais forcément, avec une moyenne quand même timidement printanière cet après-midi de 14 à 23 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva Rock, il aurait eu 80 ans aujourd'hui même.
Et oui, Pierre Desproges, et vous êtes très nombreux à réagir ce matin à la question qu'on vous a posée depuis 5 heures. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ce qu'il racontait lui avec humour à son époque? Peut-on rire de tout? Est-ce que Pierre Desproges vous manque? Alors on a plein de messages. Bertrand nous dit par exemple: salut les copains, je vais me faire huer, mais j'ai toujours été hermétique à l'humour de Desproges. En revanche, un Jérémy Ferrari ou une Blanche Gardin me font rire aux larmes et je ne les crois pas moins irrévérencieux que lui.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je
citais ce message exactement. Ah oui. Takoué nous dit: quand j'entends des sketchs de Gaspard Proust, je pense toujours à Desproges. Je trouve qu'ils ont la même manière assez désinvolte à 30 ans d'écart de dire ce que tout le monde pense tout bas. Et puis David Abicard nous a aussi répondu, figurez-vous: oui, il nous manque Pierre Desproges, son vocabulaire, son esprit, sa cruauté, sa culture, c'est son niveau qui nous manque. Le niveau de son humour n'a jamais été égalé et pour cause, le niveau a baissé.
David Abicard qui présente la revue de presse chaque matin, exactement, dans la matinale de Nico Saliegas et qu'on embrasse. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre point santé. Bonjour Marcel Hichoux.
Bonjour Mathieu.
À chaque jour, son lot de réjouissances. On parle de plus en plus de la présence en France du moustique tigre ces dernières années. En 2019, 51 départements sont en alerte rouge. Comment ce moustique est apparu?
Eh bien, ce moustique est originaire d'Asie et il est arrivé en France voici plus de 10 ans, dans le sud d'abord, par les containers venant de ces pays d'Asie. Il n'y a plus aucune zone en France qui échappe à sa prolifération. Ce moustique tigre est porteur de maladies graves et est considéré comme une menace sérieuse par les autorités sanitaires.
Alors, quelles mesures on peut prendre pour enrayer ce fléau?
Eh bien, des petites mesures, mais qui vont avoir de grandes incidences. Il faut éviter les zones où l'eau peut stagner dans la nature et dans les jardins. Couvrir les réservoirs d'eau, bien ranger le matériel de jardin.
Ah oui, par exemple un arrosoir. Ou...
Voilà, tout ça. Supprimer les soucoupes des pots de fleurs. Ah, vous savez qu'on met sous les pots de fleurs. Remplacer l'eau des vases par du sable humide. Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, ainsi que nettoyer les gouttières. Couvrir les réservoirs d'eau avec une moustiquaire ou un simple tissu, les bidons d'eau, les citernes, les bassins. Couvrir aussi les piscines hors d'usage. Enfin, lorsqu'on se trouve en zone à risque, porter des vêtements couvrants, amples et clairs, et utiliser un répulsif ou des moustiquaires la nuit. Il faut enfin pulvériser avec des insecticides chimiques ou biologiques et en cas de piqûre, désinfecter et aller consulter son médecin.
Allez voir le docteur Hichoux. Qu'est-ce qu'on risque réellement outre la piqûre?
Oh là là, j'ai peur de vous affoler.
Parlez à Eva et nos auditeurs, moi je me bouche les oreilles. Voyez, comme ça.
Ces moustiques sont vecteurs de plusieurs virus ou bactéries pouvant transmettre des maladies graves comme le chikungunya, la dengue et le virus Zika. Autant de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de traitement et pas encore de vaccin, même si les essais sont en cours. Les autorités sanitaires mettent en place des plans anti-dissémination dans plusieurs départements, notamment dans le sud de la France, en région parisienne et dans les Hauts-de-Seine. La lutte contre le moustique tigre est un enjeu de santé mondiale.
Merci, vous m'avez encore bien fait flipper, Marcel Hichoux. On retourne demain pour un nouveau point santé, 5h40.
Europe 1.
Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et d'allégresse. C'est à peu près comme lire le Times en écoutant Carlos. Vous en sortez informé, mais gay. À suivre, jeudi, les bons tuyaux, tous les conseils culture et nouvelles technologies de nos experts avec ce matin une combine qui va changer votre quotidien. Comment augmenter l'autonomie de votre smartphone qui s'éteint toujours au mauvais moment, comme par exemple lorsque vous attendez des textos d'une copine à qui vous avez demandé si c'était une bonne idée de coucher avec ce nouveau mec chelou le premier soir.
Ah bon ? Alors faut le faire, faut pas le faire. Merde !
Les bons tuyaux arrivent, mais d'abord voici Sting avec Desert Rose sur Europe 1.
L'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Du nouveau dans les tarifs SNCF à partir d'aujourd'hui, nouvelle carte réduction baptisée Avantage, déclinée en sous-catégories famille, senior, jeune et week-end, tout au même prix, 49 euros. A noter que les billets prom, souvent pris quand vous connaissez longtemps à l'avance la date de votre voyage, seront désormais échangeables et remboursables. Les fonctionnaires appelés à la grève aujourd'hui, protestation contre le projet de loi contre la réforme de la fonction publique, perturbation à prévoir dans les transports et les écoles. Il s'agit de s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique étudié par l'Assemblée nationale à partir de lundi prochain. Enfin, aux États-Unis, convocation surprise au Congrès du fils aîné de Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe lors de la dernière élection présidentielle. Première fois que le Congrès convoque un membre de la famille Trump.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 9 mai. Et à l'heure de retrouver José Coves pour les pronostics hippiques, j'aimerais renouveler ma confiance à José, odieusement mis en cause hier hors antenne par un Mathieu Charrier visiblement jaloux de ses compétences.
Le 5, le 8, le 4, le 12, le 16, le 22, le 26, le 13. Son ticket, il en cite 25, donc il a forcément raison.
Mathieu Charrier, c'est honte. Bonjour José Coves.
Oui, bonjour Mathieu aussi. Sympa, hein, le Mathieu. Sur l'hippodrome des bords de Seine, la Maison Lafitte, après le forfait du numéro 1, Ranane, ils sont 15 partants dans la première course. J'ai donné la priorité au 11, moral gagnant. Il a un bon moral et il a une tête de gagnant. Le numéro 3, Sunspeed, sur ce tracé des 2400 mètres, c'est 3 sorties, 3 fois l'arrivée. Rovigo, le 8, semble bien luné, alors profitons-en. Le numéro 6, Brockmack Mountain, est très performant sur un tel long métrage. Quant au 5, Amherst, elle nous vient du sud-ouest avec des ambitions. En cas de défaillance, le 10 Tacomdo, sa montée en puissance arrive au bon moment. Le 14 Rumba Forte, il court de mieux en mieux. Et enfin le 4 Fira, dont le retour dans les quintets est très attendu. Mon ticket pour la première course vers 13h50. D'abord le 11, le 3, le 8, le 6 et le 5. Et ensuite le 10, le 14 et le 4.
Dites-moi mon José, Brokeback Mountain, le nom de ce cheval fait référence au film Le Secret de Brokeback Mountain, histoire entre deux jeunes cow-boys en mal d'amour, pour le dire avec un euphémisme.
Oui, un amour viril et désespéré.
Oui.
Exactement. Mais pour notre cheval, après l'opération de la castration, l'amour s'est foutu, il n'a pas la partie belle. En revanche, Mathieu, sur la piste, Brokeback Mountain numéro 6 a un premier rôle à jouer.
J'adore ces histoires de castration dans le milieu hippique. Merci José Coves.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue côté culture, voici jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saff pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour la littérature 2.0, plus qu'un journaliste, un survivant. L'homme qui a survécu au moment le plus gênant de l'histoire radiophonique, le moment dit de Mathieu Charrier pense qu'il ressemble à Jean Dujardin. On a déjà entendu ce moment hier, mais c'est tellement bon et vous êtes tellement juste dans le rôle du témoin effaré et embarrassé qu'on se le réécoute.
Tu sais ce qu'on m'a dit moi plusieurs fois, qui est assez, pour le coup assez étonnant ?
Johnny Depp.
Non. Jean Dujardin, dans l'attitude et tout.
Je vois ce qu'ils ont voulu dire, mais...
De loin, hein, mais...
Toi, t'es plutôt Jean du fond de cour.
Nicolas Caro, bravo d'avoir survécu cet instant gênant. Ce matin, vous nous remettez de vos émotions, nous parlons littérature avec, c'est jeudi, un livre audio. Ce matin, c'est un roman mythique dont vous nous parlez.
Dune, de l'américain Frank Herbert, publié en 1965. C'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Ça passe au 111e siècle. En 10191, toutes les planètes sont dirigées par un empereur. Parmi elles, il y a la planète Dune, particulièrement inhospitalière. Comme son nom l'indique, on n'y trouve que du sable. Mais aussi quand même une richesse, l'épice de longue vie convoitée par tout l'univers. Il n'y a plus d'intelligence artificielle, puisque les humains sont sont libérés il y a 10 000 ans, quand les machines ont failli prendre définitivement le pouvoir. Depuis, les humains se débrouillent pour penser par eux-mêmes. Écoutez le tout début du livre qui vient d'être publié chez Lizzy et ne vous laissez pas impressionner.
C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et cela, chaque sœur du Bene Gesserit le sait bien. Ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Muad'Dib, il convient de le placer tout d'abord en son temps, en la 57e année de l'empereur Padishah, Shaddam 4.
De toute façon, on s'en fout, c'est longtemps dans le futur.
Et oui, j'étais en train de commenter.
On calculait
le 111e siècle, on calculait les dates. C'est pour ça que vous avez entendu cette petite interrogation. Et pourquoi, vous nous avez dit, Nicolas, de ne pas nous laisser impressionner?
Parce que d'une, ça se mérite. Ça ne se résume pas, ça se lit, ça se vit. Il a beau être l'un des romans les plus vendus au monde, il faut bien une centaine de pages pour entrer dans l'univers de Dune et commencer à comprendre les enjeux du livre. C'est ce que m'avait expliqué un jour l'écrivain Bernard Werber.
Au début, donc, Dune, c'est un ami précisément qui m'a dit « il faut que tu lises ça », et j'avais commencé à le lire, j'ai trouvé ça très ennuyeux. J'y suis revenu une fois, puis deux fois, puis trois fois, j'ai dit « je suis désolé, c'est très ennuyeux, c'est long, j'arrive pas à rentrer dedans ». Et il m'a dit « insiste ». Et tout d'un coup, page 150 ou page 200, la magie a eu lieu, et je suis rentré dans Dune, dans cet univers, et au bout d'un moment, ça m'a obsédé, c'est-à-dire que je ne pensais à Dune, que à Dune, toute la journée.
Ah, si Bernard Werber le dit, Dune donc à lire ou à écouter. Merci Nicolas Carreau. Et pour nous féliciter, nous auto-féliciter de la perfection de cette chronique où il n'y a eu aucun accord, je propose qu'on écoute.
Oh les champions, on est tous ensemble.
C'est vrai qu'on a été bons. Les nouvelles technologies à présent avec vous Clément Le Saffre. Pendant que Nicolas Carreau calcule le 111e siècle et 10 990, on passe aux nouvelles technologies avec vous Clément. Il semblerait que les batteries de nos téléphones soient moins performantes que ce qu'on a bien voulu nous faire croire.
Ouais, c'est ce que montre une étude de l'association britannique Which, l'équivalent un peu de notre UFC que choisir à nous. Elle a passé au crible 50 smartphones pour vérifier l'autonomie annoncée par les fabricants et les résultats sont plutôt surprenants. Certains comme Sony sous-estiment visiblement la batterie de leur téléphone, ils font mieux que ce qu'ils annoncent. D'autres comme Huawei tiennent à peu près leurs promesses. Et puis il y a Apple. Sur les 9 iPhones testés, aucun n'affiche une autonomie réelle égale à celle annoncée. L'écart va de 18% à 51% selon les modèles. Le mauvais élève, c'est l'iPhone XR qui s'en tire donc le plus mal. Apple vend pour ce téléphone une batterie qui dure selon lui 25 heures, sauf que Which affirme qu'elle tient en réalité moins de 17 heures.
Mais elles sont testées comment ces batteries, Clément ?
Bien, en règle générale, quand un fabricant parle de l'autonomie de la batterie de son téléphone, il met en avant un unique chiffre, et ce chiffre, c'est celui issu des tests dits de temps d'appel. En fait, en laboratoire, le fabricant lance un appel à 100% de batterie et le laisse courir jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Ça lui donne un nombre d'heures qui, théoriquement, est la durée de vie de la batterie sur une journée, avant la prochaine recharge. Alors, chaque fabricant a sa propre façon de tester. Par exemple, pendant l'appel, Apple connecte l'iPhone en Wi-Fi avec des écouteurs en Bluetooth. C'est censé rendre le test un peu plus réaliste, mais on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir quand même dans le fond avec ce que nous, on fait quand on utilise nos téléphones.
Et le problème de la batterie, c'est aussi qu'elle se fatigue vite, mais c'est possible de la changer.
Oui, on peut tout à fait le faire, mais c'est un peu compliqué. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il suffisait d'ouvrir la coque arrière de son téléphone, de remplacer sa vieille batterie par une neuve.
Le vieux temps des téléphones Ericsson.
Exactement, mais voilà, ça c'était avant que les fabricants optent pour des designs en métal d'un seul tenant. Aujourd'hui, à moins d'être très, très bricoleur et d'avoir un peu le goût du risque, il faut le dire, c'est impossible d'ouvrir son téléphone sans risquer de le casser et au prix que ça coûte, on ne va pas faire ça. Donc pour éviter d'en arriver là, mieux vaut se tourner directement vers le fabricant ou vers un revendeur agréé, il y en a énormément. Alors par exemple, Apple propose de remplacer la batterie de votre iPhone pour 49 ou 69 euros selon le modèle. C'est gratuit si vous êtes encore sous garantie. Par exemple, si vous avez un Samsung, il vous en coûtera par contre un petit peu plus cher, 75 euros. Mais vu le prix des téléphones, ça vaut quand même le coup de payer cette somme pour s'acheter 2 ou 3 ans de RAB, parce que ça va se permettre de pas payer 1000 euros de plus tous les 3-4 ans.
Effectivement, on fera
ça. C'est idiot de faire un test en faisant un seul appel téléphonique, alors qu'aujourd'hui, on n'appelle quasiment plus avec nos téléphones, on fait que de la vidéo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais vous devrez postuler magazine Which ou...
À la fois, c'est le jeu, on sait bien que les batteries d'iPhone, ça ne dure pas longtemps.
Non, puisque d'autres téléphones font mieux. Mais d'autres téléphones font mieux. Visiblement, Huawei fait mieux et Sony fait mieux. Alors pourquoi Apple ne se mettrait pas au niveau ? Eva Rock.
Bon, on va faire un peu d'intelligence. Vous savez ce que disaient des proches sur la culture ? C'est comme l'amour, il faut y aller par petits coups au début, puis pour bien en jouir plus tard. J'aime beaucoup cette citation.
Oui, ça ne m'étonne pas que ça soit votre citation fétiche.
Et ce matin, je vous propose d'aller sur YouTube découvrir la chaîne qui s'appelle Virago, alliée histoire et féminisme. Eh bien, c'est le pari de la comédienne et auteure Aude Conny Goubert qui a créé, on l'appelle Aude GG, qui a créé la chaîne YouTube Virago. Virago, ça désigne initialement une femme qui a de l'allure et les manières d'un homme. Comprenez, une femme guerrière, forte, courageuse. Et c'est bien de cela qu'il s'agit sur la plateforme de partage de vidéos. La comédienne va incarner tour à tour des femmes qui ont marqué l'histoire, mais dont nous avons souvent oublié le destin. Olympe de Gouge, Malala, la jeune pakistanaise, la conférencière Hélène Keller ou encore Alice Guy, inventrice du cinéma.
J'ai demandé à Monsieur Gaumont si je pouvais me hasarder à l'exercice et il acquiesça à condition que son courrier n'en souffre pas.
Et c'est comme ça qu'en 1896 est né le premier film de fiction au monde, La Fée aux Choux, dont elle était à la fois autrice et réalisatrice.
C'était une histoire prime sautière, juste un essai, mais ça m'a permis de renouveler l'expérience.
Vous disiez, Nicolas ?
Inventrice,
et oui, elle le fait exprès. Aude, elle prononce ce mot de inventrice, effectivement, pour rendre hommage encore à toutes ces femmes. Et en moins de 3 minutes, eh bien, elle parvient à dresser des portraits précis, des portraits très ludiques, grâce à la forme notamment, parce que vous allez avoir des personnages en costume qui s'adressent face caméra et qui semblent sortis tout droit d'un tableau, d'une peinture, en fait, pour raconter leur histoire. L'humour est toujours présent, évidemment, comme souvent c'est le cas dans les chaînes YouTube qui traitent de faits historiques. Et ça fait du bien, ça dépoussière surtout le genre. Virago est à voir sur YouTube. C'est gratuit, bien évidemment.
Merci beaucoup, Eva, pour ces conseils. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Et Céline, si vous pouviez rassurer Nicolas Carreau, je vous en remercie d'avance.
Est-ce qu'il est beau, Jean Dujardin ?
Ah, dégueu, dégueu.
Merci pour lui.
Europe 1.
Oui, mais il est drôle. Et il est 5h56.
Ne cautionnez pas ce que je vous fais dire. Jean Dujardin est magnifique.
Non, en plus, il est magnifique, c'est vrai.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de...
Céline Kallmann.
Et non, François Geffrier.
Ah non, c'est vrai. Il est 5h57, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Encore des températures assez douces.
Oui, et semblable à celle d'hier. Hein. 15 degrés à Caen cet après-midi, 16 à Nantes, à Strasbourg, 17 à Paris, 18 à Montauban et à Agen, 21 pour Montpellier jusqu'à 23 à Bastia. Et puis ce matin, la moyenne va de 6 degrés à Annecy en passant par 9 à Deauville, 10 à Lorient, à Paris, 12 à Niort, 14 à Biscarros et 16 à Figari en Corse.
Et tout ça sous la pluie et le vent, ce qui gâche un peu la fête.
Que oui, on n'en a pas fini avec les averses et ce sera le cas encore entre vendredi et samedi. On aura quelques éclaircies demain, mais la pluie sera de retour samedi. Avant, une vraie calme à partir de dimanche et le retour du soleil partout ce matin. Donc la pluie est encore bien présente du Poitou-Charentes à la région centre, en passant par la Normandie, l'Île-de-France et puis en allant vers le Grand Est. Ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une averse non plus. Là où c'est plus sec avec déjà ce matin quelques éclaircies, c'est entre le sud de l'Aquitaine et la région PACA. Pas étonnant quand même, ce temps pluvieux. Hein. La pluie en mai, c'est normal, voire banal. C'est statistiquement le mois le plus pluvieux de l'année. Ça va continuer cet après-midi. Des averses plus soutenues sur tout le nord-est avec quelques coups de tonnerre. Du vent déjà présent qui va se renforcer. 70 à 80 km à l'heure dans les terres. Là où ça va rester sec, encore une fois, hein, c'est sur une frange vraiment au sud-sud, entre les Landes et les Alpes-Maritimes et la Corse.
Au sud-sud. Merci sud-sud. Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.